Gloire au Seigneur. Merci, Maître. Je vais vous demander de rester debout. Je voudrais vous poser une question. Qui croit que la Bible est la parole de Dieu qui lève sa main? Qui croit que lorsque deux ou trois s'accordent pour demander une chose à Dieu, Dieu est prêt à le leur accorder? Qui croit cela? Gloire au Seigneur. Est-ce que vous croyez que si vous, vous demandez au Seigneur de répandre sur moi une onction fraîche, de répandre sur moi, de mettre dans ma bouche sa parole, de faire de moi qu'un simple robinet qu'il va ouvrir sur son assemblée afin que la vie de l'Esprit coule, est-ce que vous croyez que si vous priez de cette manière, Dieu exaucerait?
Amen.
Eh bien, non seulement vous qui êtes ici, mais je voudrais m'adresser à ceux qui nous suivent via la télé. Vous aussi, si vous croyez qu'en vous unissant la prière de ceux qui sont ici à la borne, en ma faveur, Dieu vous écouterait, eh bien, je vous demanderai de lever vos mains là où vous êtes, devant votre écran, eh bien, et de vous joindre à nos amis, à nos frères qui sont ici présents, pour prier pour moi, afin que l'onction fraîche de Dieu descende sur moi. Alléluia. Si vous êtes d'accord, alors je vous prie de lever vos mains vers moi et de demander à ce que Dieu répande son onction sur moi. Alléluia. Merci, Maître. Merci Seigneur. C'est devant toi que je me tiens, Seigneur, pour implorer ta grâce sur moi, afin que ce matin, comme les autres fois, Seigneur, que je ne sois qu'un outil entre tes mains pour l'édification de ton corps. Je prie pour que ta parole, Seigneur, puisse toucher les cœurs, que ta parole puisse construire ton caractère dans nos vies. Que ta parole puisse bousculer toutes les fausses convictions. Seigneur, qu'elle puisse débarrasser nos cœurs de toute souillure, de toute impureté. C'est avec confiance que nous nous tenons devant toi, Seigneur, pour implorer ta grâce sur ta parole. Qu'elle soit proclamée avec force. Qu'elle ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir touché cœur. Sans rapporter la guérison dans le corps malade. Sans avoir secoué le cœur incrédule, sans avoir amené le pécheur au pied de ta croix. Seigneur, sans avoir suscité la repentance, ô Dieu, sans avoir amené le gens à la conversion réelle, à la réconciliation avec toi. Bénis ta parole. Répands-la maintenant, en nous, parmi nous et autour de nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, veuillez vous rasseoir. Gloire à Dieu, alléluia. Le Seigneur est bon. Ce matin, je vais aborder une pensée que j'ai eu à effleurer lors de mes précédentes prédications. Aujourd'hui, nous allons prendre un temps pour essayer de l'approfondir. Et le thème de ce matin, la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur pour notre célébration est être une couronne avant de recevoir la couronne. Alléluia. Être une couronne avant de recevoir la couronne. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi deux passages. Le premier se trouve dans Ésaïe 62. Si on peut juste diminuer un tout petit peu, sans couper, mais vous diminuez simplement. Ésaïe 62, nous allons lire les trois premiers versets. C'est donc un message de salut que le Seigneur adresse à Sion, un message de réconfort. À cause de Sion, Ésaïe 62, verset 1er, à cause de Sion, je ne me tairai pas, à cause de Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice paraisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras, c'est le verset qui nous intéresse, tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la paume de ton Dieu. Et enfin, le deuxième texte, c'est donc 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 4, qui est donc le dernier chapitre de cette deuxième lettre de Paul à Timothée. Nous lisons donc à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. « Car pour moi, me voici déjà offert en libation, et le moment de mon départ approche, donc de sa mort. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Amen. Gloire au Seigneur. » Nous avons déjà eu l'occasion de l'observer pour essayer de faire comprendre à l'homme les vérités du royaume, pour faire comprendre à l'homme les vérités spirituelles qui sont au-delà de sa raison, pour permettre à l'homme de comprendre les principes qui gère notre relation avec le Créateur, la parole de Dieu recourt au langage symbolique. Voyez, sous forme de métaphore, nous l'avons vu, sous forme de parabole, sous forme d'allégorie. Le Seigneur lui-même, même avant lui, ses prophètes, ont utilisé cette façon de communiquer la parole de Dieu. C'est ainsi que, et nous l'avons déjà vu, puisque nous avons pris un temps assez long pour parler de ça, c'est ainsi que pour illustrer la vie chrétienne, pour exprimer le statut de tout celui qui se réclame du Christ, de tout celui qui est en Christ, qui est enfant de Dieu, eh bien la parole de Dieu va recourir à plusieurs images que nous avons déjà eu l'occasion d'observer, sur lesquels nous avons déjà eu l'occasion de mener une réflexion. Et parmi ces images, il y a donc celle du chrétien comme étant un bon soldat du Christ qui n'est pas dans une caserne, mais qui est dans un champ de bataille. Vous vous rappelez ? Gloire au Seigneur, formidable. La deuxième métaphore, c'est donc celle de la vie chrétienne comme étant une course du temps vers l'éternité. Mais une course qui doit être faite selon des règles bien établies. Et enfin, nous avons vu cette image qui compare la vie chrétienne, eh bien, à un cultivateur qui sème, qui peine pour semer, qui laboure en attendant de récolter. Alléluia. Gloire à Dieu. Si chacune de ces métaphores ou de ces images essaye, dans ses limites évidemment, d'exprimer la réalité de la vie chrétienne, c'est-à-dire la vie chrétienne comme étant un combat à gagner, gloire à Dieu, la vie chrétienne comme étant une course à remporter, gloire au Seigneur, la vie chrétienne comme étant, eh bien, un labourage. Si la vie est comparée, la marche avec Christ est comparée à tout ça, eh bien, ces images ont cependant plusieurs dénominateurs communs. Et parmi ces dénominateurs communs, je mérite en épingler un qui va nous intéresser aujourd'hui. Ces dénominateurs communs est que, au terme de ce combat dans lequel nous sommes engagés, au terme de cette course dans laquelle nous sommes engagés, au terme de ce labourage, mes amis, il y a une récompense. Il y a un prix à recevoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a donc un couronnement pour tous ceux qui mèneront le combat jusqu'au bout. Pour tous ceux qui achèveront leur course et arriveront jusqu'à la fin. Pour tous ceux qui travailleront dans le champ du Seigneur. Évidemment, en versant des larmes, avec sueur, en peinant. Il y a un couronnement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans les sept lettres que le Seigneur adresse aux sept églises situées dans cette région de l'Asie mineure, eh bien, nous voyons qu'à la fin de chaque lettre, nous sommes dans Apocalypse 2, nous n'avons pas le temps de lire tout cela, à la fin de chaque lettre, le Seigneur termine son message par une promesse, plusieurs promesses, mais on peut résumer ces promesses, eh bien, par cette formule qui revient tout le temps, qui est donc récurrente dans ces passages, c'est que, au vainqueur, je donnerai ceci, je donnerai cela. À celui qui vaincra, je ferai ceci, je ferai. Alléluia. Il y a donc, mes amis, une récompense qui nous est destinée. Il y a donc quelque chose que le Seigneur va donner au vainqueur. Quelque chose que chacun de nous recevra pour autant qu'il persévère, pour autant qu'il aille jusqu'au bout, pour autant qu'il remporte la guerre, le combat, pour autant qu'il achève sa course. Comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et parmi ces récompenses que nous trouvons, il y a donc deux qui sont intimement liés à l'église des Smyrne. La deuxième église, le Seigneur dit ceci, « Je connais ta pauvreté et pourtant tu es riche. » Vous voyez, mes amis, la richesse selon Dieu n'a rien à voir avec la richesse selon les standards des hommes. « Je connais ta tribulation. » Cette église passait par des moments difficiles. Cette église était pauvre sur le plan matériel. Cependant, aux yeux de Dieu, c'était une église riche. Alléluia. Et le Seigneur l'encourage. Il demande à cette église de rester fidèle jusqu'au bout. Et il ajoute, alors, au vainqueur, je donnerai une couronne de vie. Amen. Une couronne réservée à ceux qui resteront fidèles au Seigneur et qui iront jusqu'au bout. Et à la dernière église, celle de la Odyssée, eh bien, il reprend encore cette promesse en disant, « Celui qui vaincra, celui qui arrivera jusqu'au bout, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis sur le trône de mon Père. » J'aimerais que nous nous attardions un tout petit peu là-dessus, sur la déclaration du Seigneur. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon... » Pouvez-vous vous imaginer? Celui qui parle s'appelle la vérité. De sa bouche ne sort que la vérité. Et sa parole, mes amis, eh bien, sa parole est irréfutable. Elle est infaillible. Celui-là promet au vainqueur, non seulement de lui donner la couronne, mais aussi de lui partager son trône. Il n'y a pas de couronne sans trône. Et il n'y a pas de trône sans couronne. Les deux sont intimement liés. Alléluia. Et là, nous voyons, mes amis, le plus grand honneur que le Seigneur réserve à tous ceux qui persévéreront dans leur marche et qui iront jusqu'au bout. Tous ceux qui resteront fermes dans leurs convictions, qui combattront jusqu'à ce que ils entrent dans la gloire et qu'ils soient accueillis comme des héros de la foi. La couronne, le couronnement. Pas de plus grand privilège, pas de plus grande dignité, mes amis, que celle-là. Être couronné par le roi des rois. Je voudrais que nous puissions nous imaginer un peu cette scène, ce spectacle extraordinaire, ce spectacle glorieux qui nous attend, qui attend ceux qui auront persévéré jusqu'au bout, ceux qui auront dit non au monde, et quelquefois au prix de leur vie. La Bible nous dit en ce jour-là, imaginez-vous le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Imaginez-vous tous ces anges, tous ces êtres élevés en dignité et en gloire. Imaginez-vous tous ces archanges. Et là, au-dessus des archanges, au-dessus des chérubins, il y a le trône de l'agneau de Dieu. Il y a le Seigneur des seigneurs. Et puis à un certain moment, des livres blancs sont ouverts. Et on commence à appeler le nom, des noms nouveaux. Car nos noms restent ici sur terre. Les seules traces de nos noms, c'est sur les épitaphes, voyez-vous, des tombes, de nos tombes. Si J, ici repose en paix. C'est toujours en paix, même un bandit, un voyou. Voilà, un criminel. Un homme qui a violé, qui a tué, ici repose en paix. Quelle paix. Voyez-vous. Eh bien, nos noms restent là. Quand nous passons de l'autre côté, nous recevons de nouveaux noms qu'un seul le Seigneur connaît. Et en ce jour-là, devant les anges et les archanges, un spectacle glorieux de couronnement. Pas des anges, pas des chérubins, mais des hommes et des femmes nés dans le péché, ayant vécu dans le péché, mais ayant rencontré le Seigneur de gloire. Des hommes et des femmes, mes amis, venus du monde entier, de tous les âges, qu'il aura racheté par amour et dans sa grâce. Et là, il appelle le nom tel. La personne s'avance. Il le fait asseoir sur le trône et il prend une couronne. Il met la couronne sur la tête. Imaginez-vous un peu ce spectacle. Avez-vous déjà assisté à un couronnement royal? Ou avez-vous déjà vu cette cérémonie par ou à travers des médias? Évidemment, il n'y a pas très longtemps, le roi des Belges a abdiqué, son fils est monté sur le trône. Eh bien, on a fait appel à toutes les têtes couronnées du monde, les grands, entre guillemets, de ce monde. Vous et moi, on n'était pas là. C'est pas grave, Dieu est juste. Le plus grand couronnement, c'est dans l'au-delà. Gloire à Dieu. Il y avait de tout. Voyez-vous, tout le monde est venu. Voyez. Un peu partout, il y a la monarchie. Quand il y a changement, il y a couronnement. Et c'est un grand événement, mes amis, qui est suivi partout, surtout avec les médias. Mais le plus grand couronnement, c'est celui qui attend tous ceux qui auront persévéré jusqu'au bout. Le plus grand couronnement attend, mes amis, ceux qui auront combattu et qui auront remporté la victoire. Ceux qui auront couru et achevé leur course. Alléluia. Et là, il n'y aura pas de mots pour remercier le Seigneur. Ça sera quelque chose qui dépasserait tous ceux qui recevront de sa part non seulement une couronne, mais qu'il fera asseoir sur son trône. Et son trône est au-dessus des anges. Son trône est au-dessus des archanges. Vous comprenez pourquoi Paul a dit que c'était un mystère qui est resté caché pendant des siècles, mais que Dieu a révélé dans le temps de la fin à nous qui vivons cette période de la grâce. Ce sont des choses qui nous dépassent. Et je rends grâce à Dieu, il est juste. Il est juste. Chacun de nous peut connaître un jour le couronnement. Vous n'avez pas besoin d'appartenir à la dynastie de Windsor, celle qui règne en Angleterre. Non. Vous êtes né quelque part en Bandaka, de par votre naissance, eh bien, vous ne pourriez jamais aspirer à monter sur ce trône-là. Oui ou non? Aucun d'entre nous ne peut aspirer un jour à monter sur le trône belge ou sur le trône de n'importe quelle monarchie, puisqu'il faut appartenir à la famille royale. Il faut faire partie de la maison royale. Il faut être un des descendants. Et parmi encore les descendants, eh bien, il y a un ordre qui est bien établi. Mais Dieu est juste. Alléluia. Qu'on fasse partie d'une famille royale, ici sur terre, qu'on n'en fasse pas partie, le Seigneur réserve une couronne à tout homme, quel qu'il soit, à condition qu'il soit vainqueur. Et non seulement lui donner la couronne, mais aussi à le faire asseoir sur son trône. Alléluia. Vous prenez le cas du Royaume-Uni. La Grande-Bretagne plus l'Irlande du Nord. Sous la couronne britannique, et à la tête, vous avez une reine, oui ou non? Elle seule! J'ai vu une fois une image avec sa couronne, mes amis, ornée de sertie des diamants, ornée de pierres, les meilleures pierres qui soient. Je crois que c'est une couronne qui n'a pas de prix. Oui ou non? Eh bien, cette couronne ne peut pas aller sur la tête de n'importe qui. Vous pouvez faire partie de ce royaume, jouir de telle ou telle notoriété, être célèbre, être le plus grand artiste du Royaume-Uni, être l'homme le plus intelligent, recevoir toutes sortes de prix Nobel, toutes sortes d'Oscars, être adulé par tous les Britanniques, mais cependant ne jamais, jamais monter sur le trône, car ce privilège appartient à la dynastie de Windsor. Voyez-vous, elle n'a rien fait. Ça lui revient de droit, n'est-ce pas? Eh oui, elle est montée, elle a remplacé son père. Mais pour le Dieu, il n'a pas pointé les gens. Il n'a pas dit, toi tu viens de telle famille, toi tu es de telle origine, eh bien je te destine à partager mon trône. Non, le trône est destiné à chacun de nous. Mais seulement, seulement, il faut être vainqueur. Gloire à Dieu. Il faut donc être vainqueur. Avant de recevoir cette couronne, comme l'apôtre Paul va l'affirmer, il est sûr. Il a combattu le bon combat. Il est resté ferme dans ses convictions, ferme dans son engagement, ferme dans sa relation avec le Seigneur. Il dit, désormais, la couronne de justice m'attend. Je la recevrai de sa part en ce jour-là. Gloire à Dieu. Après avoir combattu le bon combat, après avoir achevé la course, après avoir gardé la foi, cet homme s'en est allé. Il ne l'a pas encore reçu. Il attend le jour, alléluia, que le Seigneur a fixé. En ce jour-là, eh bien, tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, depuis que l'Église a commencé à la Pentecôte, jusqu'au jour de l'enlèvement, tous ceux-là, mes amis, se tiendront devant lui et recevront une récompense. Nous ne pouvons pas nous attendre, mes amis, à être couronnés, à recevoir une couronne en ce jour-là, si présentement, notre vie n'est pas une couronne étincelante entre les mains du Seigneur. Il faut d'abord et avant tout que notre vie soit une couronne entre ses mains pour espérer un jour recevoir de sa part non seulement la couronne, mais aussi partager son trône. Gloire au Seigneur. D'où la question, comment faire pour devenir une couronne? J'aspire à recevoir cette couronne, n'est-ce pas? Oui, c'est une grande récompense. L'homme a une aspiration en lui qui l'amène à vouloir toujours une récompense. Qui travaillerait quelque part et n'espérerait pas recevoir une récompense sous forme d'une promotion? Sois honnête. Hein? Même si tu donnes l'impression, j'ai des derrière, moi je m'en fous. Mais en toi-même, tu te dis, oh là là, j'aurais aimé. Lui a connu, elle a connu la promotion, pourquoi pas moi? Oui. Il y a quelque chose dans l'homme qui l'amène à espérer, à vouloir, voyez-vous, à recevoir quelque chose de plus grand. C'est ce qui pousse l'homme, mais dans le mauvais sens, à vouloir monter sur toutes sortes de piédestals. Comment devenir une couronne? Voilà donc la chose la plus importante. Et désormais, en venant dans ces lieux, en écoutant la parole de Dieu, eh bien, mes amis, ayez un seul objectif, c'est que votre vie devienne une couronne entre les mains du Seigneur. Car en devenant une couronne rayonnante, une couronne étincelante, une couronne splendide, vous pourriez alors espérer recevoir de sa part en ce jour-là une couronne, et plus qu'une couronne, eh bien, s'asseoir sur son trône. Gloire au Seigneur. Car le monde offre aussi des couronnes de laurier, des couronnes mortuaires, n'est-ce pas? Toutes sortes de couronnes, mais ces couronnes sont éphémères. Ces couronnes sont appelées un jour à disparaître, mes amis, mais seule la couronne du Seigneur demeure éternellement. C'est la plus grande récompense, c'est la plus grande dignité, mes amis. Voilà pourquoi Paul pouvait dire avant que nous sommes co-héritiers avec Jésus, alléluia. Mes amis, ça vaut la peine de se battre et d'aller jusqu'au bout. Ça vaut la peine de persévérer malgré le contexte d'hostilité dans lequel vous évoluez. Malgré les différentes épreuves, mon frère, ma sœur, persévère. Car au terme de cette persévérance, au terme de ce combat, il y a un couronnement qui t'attend. N'a-t-il pas dit, lui, le champion de la foi chrétienne, Paul, le souffrant du temps présent ne saurait être comparé à la gloire qui nous est réservée. Mes amis, cette couronne est la position de partager le trône du Seigneur. Comment devenir? Eh bien, la première chose, nous devons savoir que c'est entre ses mains et ses mains seulement que nous sommes appelés à devenir une couronne. Vous ne pouvez pas l'être en dehors du Seigneur. Donc, puisqu'il en est ainsi, alors la responsabilité de chacun de nous, c'est de tout faire pour que sa vie reste constamment entre les mains du divin potier. Que sa vie, notre vie soit toujours entre les mains de notre Seigneur. Et non pas entre les mains d'un évêque, d'un prophète, d'un chef religieux quel qu'il soit. Non! Ne suivez pas un homme, mais suivez le Seigneur. Un homme pourra un jour, ou pourrait, vous trahir, pourrait vous décevoir, mais le Seigneur ne déçoit jamais. Alléluia. Celui et lui seul qui peut, mes amis, changer la nature de notre vie, une vie marquée par le péché, une vie marquée par toutes sortes de souillures, en une nature dorée. Et en faire une couronne splendide qui va être source de joie pour lui. Et la Bible nous dit, la joie du Seigneur est ma. Comment tout faire pour que Dieu soit content de moi? Comment faire pour que Dieu soit heureux de moi? Comment tout faire pour que le Seigneur soit dans la joie à chaque fois qu'il me regarde marcher sur cette terre? Prendre des actes, comment? Prendre des décisions, poser des actions, poser des gestes, à chaque fois que je réagis, voyez-vous, ou soit mes réactions et mes actions suscitent de la colère en lui et de sa part, ou alors ma vie est vraiment une couronne qu'il tient avec beaucoup d'amour entre ses mains, alléluia. Quand il jette ce regard à la borne, quand il répand ce regard sur Kinshasa, il sait que telle est une couronne. Telle est une couronne, alléluia. Quand bien même vous vivriez dans un quartier mal fané, quand vous vivriez en périphérie de Kinshasa, dans des quartiers difficiles, si vous êtes une couronne, vous avez du prix à ses yeux. Alléluia. Donc, c'est entre ses mains que nous sommes appelés à prospérer, comme le bâton d'Aaron avait bourgeonné. Mes amis, alors qu'il était dans l'arche. C'est là, dans l'arche, que le bâton a bourgeonné, que le bâton a fleuri et qu'il a fini par porter du fruit, alléluia. Gloire au Seigneur. Celui et lui seul qui a la capacité, qui a le pouvoir, qui a la vertu de transformer nos vies de paille, nos vies de chaume, nos vies de bois, en une vie d'or, en une vie d'argent, en une vie faite de pierres précieuses. Alléluia. Et ça, mes amis, il n'y a que lui et lui seul. Poser nos vies, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est le cœur même du message évangélique. Poser sa vie entre les mains du Seigneur, c'est mener une vie qui soit en conformité avec sa volonté. Car c'est en marchant, en demeurant dans sa volonté, que nous pouvons demeurer entre ses mains, oui ou non. C'est comme un enfant, voyez-vous? Si vous voulez demeurer, eh bien, dans les faveurs de votre père, de vos parents, rester entre leurs mains, eh bien, vous devez vous soumettre, évidemment, pour autant que ce ne soit pas des parents très difficiles, très autoritaires, très despotes. Voyez? Mais en demeurant entre leurs mains, eh bien, vous pourriez bénéficier de mille et une choses, n'est-ce pas? Voyez? Donc, demeurer entre les mains du Seigneur, c'est mener une vie à laquelle le Seigneur nous appelle. C'est toujours la même chose, c'est que Dieu veut ce votre... Ah, mais vous ne le saviez pas? Ce que Dieu veut, ce n'est pas d'abord votre prospérité matérielle. Ce que Dieu veut, ce n'est pas d'abord votre promotion sociale. Ce que Dieu veut, ce n'est pas d'abord votre mariage, même si cela est important, car celui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit, mais ce que Dieu veut d'abord et avant tout, c'est votre sanctification. C'est en marchant selon la parole de Dieu, selon les prescrits bibliques, que vous permettrez à votre vie de demeurer entre les mains du Seigneur. Et en laissant votre vie entre les mains du Seigneur, en la laissant entre les mains du divin potier, lui, mes amis, va la peaufiner, va la perfectionner, va la transformer, lui seul et lui seul. L'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens, il leur montre qu'il y a un fondement qui a été posé, à savoir Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et en même temps, il leur dit, c'est seulement sur ce fondement qu'ils devaient bâtir. Et il ajoute, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, avec du bois, avec du foin et du chaume, eh bien l'œuvre de chacun se révélera, sera manifestée à travers et par le feu. Donc, bâtir sur le fondement, avoir ce fondement, c'est déjà être sauvé, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Et il dit, si l'œuvre de quelqu'un, en passant par le feu, est détruite, alors la personne n'aura rien, ne recevra rien comme récompense, et il sera sauvé comme au travers. Il va se retrouver dans le ciel de gloire sans rien. Vous vous rendez compte? Déjà ici-bas, nous n'avons pas grand-chose. Oui ou non? Et vous pensez que de l'autre côté, vous vous retrouvez encore sans rien. Vous commencez à regarder tel seul. Hé, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait compris. Il s'est investi à fond dans l'œuvre de Dieu. Il a bâti, non pas avec tous ces matériaux, mes amis, destructibles, non, il a bâti avec des matériaux durs. Voyez-vous? Ce sont donc ces matériaux-là qui vont faire de nos vies une couronne. Si vous bâtissez avec le foin, eh bien, vous vous retrouvez sur ce fondement-là avec une couronne de foin. Vous vous rendez compte? Si vous bâtissez avec du bois, vous allez vous retrouver avec une couronne en bois. Si vous bâtissez avec du foin, du chaume, c'est la même chose. Vous allez vous contenter simplement de sentir quelque chose sur la tête. Alléluia. Mais c'est du foin. Tu es content parce que tu sens, tu en accumules, non? Même le foin, un kilo de foin, ben c'est un kilo de foin. Voyez-vous, si vous prenez un kilo d'or, et 1 kilo de foin, lequel pèse le plus? Vous connaissez la... On m'avait posé cette question, j'étais tout petit. J'ai dit, mais 1 kilo de papier. Ça, je me souviens. Par un copain, je crois, qui était un peu très zélé là. Il voulait me démontrer qu'il était très intelligent. Il dit 1 kilo de papier et 1 kilo de pierre. Lequel pèse plus? Il dit, mais enfin, tu te fous de moi ou quoi? Mais c'est le kilo de pierre. Il dit, mais non, c'est 1 kilo. Vous voyez, c'est après que je me suis dit, oh là là, je me suis fait avoir. Eh bien, vous accumulez des kilos de foin, votre couronne là. Du bois de Wenge et tout ça, mais ça reste du bois. Oh, c'est du bois de baobab, mais ça reste. Oh, c'est du bois noir ou du bois blanc, ça reste. Un jour, le grand jour viendra, où tu vas débarquer avec votre couronne là. D'ailleurs, la couronne de bois, ça flash, hein, partout où vous passez, on voit du bois. C'est tout un baobab sur votre tête. Vous vous réjouissez. Mais aux yeux de Dieu, ça ne vaut pas. Ça ne vaut rien. Et en ce jour-là, il allume le feu. Et là, tu sens le poids, tu dis, Hangayoyo. Hein? Tout ce que j'ai accumulé, les dons que j'ai faits, les dîmes, les offrandes, là, les témoignages. Vous pensez à tous ceux que vous aviez évangélisés, mais avec des motivations impures. Vous partiez pour que le pasteur sache que vous avez été évangélisé, le transport. Pasteur, ok, prenez le transport. Vous allez là-bas simplement, non pas pour évangéliser, mais vous profitez d'aller faire une course et pour avoir la conscience tranquille, alors vous essayez de parler, tu sais, le Seigneur t'aime. Hein? Ok, reçois Jésus et puis hop. Eh bien, vous pensez que parce que ça pèse sur vous, sur votre tête, eh bien cela vous donnerait, je ne sais pas, une couronne de la même dimension. Jusqu'à ce que vous passiez par le feu. Et au sortir du feu, qu'est-ce qu'il y aura? Cendres. Vous faites ça et il n'y a rien. Tout est parti. Le foin, c'est la même chose. Dans ce texte-là, mes amis, pour aller plus vite, dans ce texte-là, on peut diviser les matériaux en 2 catégories. Il y a d'abord les matériaux durables qui ne se détruisent pas lorsqu'ils passent par le feu. Et dans cette catégorie-là, ben, nous trouvons l'or. C'est dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 11, que vous pourriez trouver ça. Et puis l'argent. Et puis les pierres précieuses. La Bible, eh bien, ne dit pas lesquelles, mais des pierres. Vous en connaissez quelques-unes? Comme quoi? Les diamants. Oh, les sœurs sont des spécialistes. Des pierres précieuses. Ça, c'est la première catégorie. Oui. Et la deuxième catégorie, malheureusement, eh bien, est composée de 3 autres matériaux, à savoir le bois, le foin et le chaume. Voyez. Donc, le chaume, le bois, le foin sont des matériaux avec lequel la Bible nous dit vous pouvez bâtir, mais seulement à l'épreuve du feu, ce matériau ne subsisterait pas. Vous perdrez tout. Mais lorsque vous bâtissez avec de l'or, lorsque vous bâtissez avec l'argent, lorsque vous bâtissez avec les pierres précieuses, la parole de Dieu nous rassure que lorsque nous passerons par cette épreuve-là, eh bien nos matériaux subsisteraient. Et puisque ce matériau subsisterait, alors seulement nous recevrons une couronne. Vous recevrez une récompense. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 3, très rapidement. Il dit, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de... Donc, quand chaque fois que nous posons des œuvres, nous bâtissons. D'abord dans notre vie. Avant de voir les bénéficiaires de ces œuvres-là, nous devrions regarder à nous. Chacun donc, l'œuvre de chacun, la nature de l'œuvre va se manifester. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, alors seulement il recevra la récompense de cette couronne-là. Alléluia. C'est cette couronne qui est donc destinée à ceux qui auront bâti avec des matériaux durs. D'où la question fondamentale, avec quoi bâtissons-nous notre vie? Avec quel type de matériaux? Car le Seigneur, mes amis, voudrait nous couronner en ce jour-là. C'est dans la nature de Dieu de bénir son peuple. C'est dans la nature de Dieu de récompenser son peuple. Dieu éprouve de la joie à donner. D'ailleurs, c'est un des principes du royaume des cieux. Il y a plus de joie à donner qu'à... Donc, il veut que nous soyons couronnés en ce jour-là. C'est pourquoi il a tout fait. Voyez-vous? Mais, avec quoi bâtissons-nous? Avec de l'or? Avec de l'argent? Avec des pierres précieuses? Si tel est le cas, alors mes amis, nous pouvons espérer recevoir la récompense. Parce que l'or et toutes ces pierres précieuses résisteront à l'épreuve du feu. Gloire à Dieu. Mais si, à contrario, nous bâtissons avec le bois, avec le chaume, avec le foin, lors de cette épreuve-là, eh bien, nous perdrons tout. Nous serons sauvés, certes. Attention, ce n'est pas le feu du jugement. C'est le feu qui va déterminer la récompense. Le feu du jugement, le feu de la Géhenne, il est destiné aux rebelles, aux idolâtres, à tous ceux qui n'auront pas cru en Christ. Ici, il s'agit de récompenses, mes amis. Vous savez, quand on est dans un état de manque, on en souffre. Oui ou non? Eh bien, vous voulez faire quelque chose, mais vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas l'argent. Vous êtes en manque. Ça vous frustre. Vous êtes en manque de ceci, en manque d'affection, en manque d'argent, en manque de nourriture, en manque de promotion, en manque de travail. Ce n'est pas un état normal, oui ou non? Alors, mais ça reste encore un manque temporel. C'est-à-dire qu'il y a un commencement et qu'il y aura une... Ouais. Bon, il y en a qui peuvent rester dans cet état, mais il faudra bien un jour qu'ils quittent cet état par la mort et puis s'en aller. Ouais. Mais le plus grand manque, vous vous rendez compte, c'est celui-là. Où vous êtes sauvé, vous n'avez rien. Vous devenez comme une sorte de clochard au ciel. Vous passez, vous sifflez, vous chantez, c'est très bien. Vous êtes sauvé, mais vous n'avez pas de récompense. Alors pourriez-vous, c'est vrai que la jalousie ne sera pas là. Mais quand même, quand vous voyez les gens avec leur couronne sur le trône, et vous vous contentez d'être au pied là, quand vous regardez, mais j'ai encadré ce frère là. Ah oui, vous l'avez encadré, il avait compris. Vous lui donniez la parole de Dieu, il l'a mangé, il la mettait en pratique. Cette parole prenait vie dans son corps, dans son âme, dans son esprit, et il bâtissait avec des matériaux solides. Mais vous vous contentiez simplement de lui donner la parole de Dieu et vous continuez à bâtir avec du foin. Et pour terminer, quand est-ce qu'une œuvre accomplie? Quand est-ce qu'un geste posé? Quand est-ce qu'une action faite? Quand est-ce qu'une réaction est un matériau dur, c'est-à-dire de l'or, de l'argent ou de pierres précieuses avec lesquelles nous construisions notre vie? Et quand est-ce que c'est le contraire, c'est-à-dire nous posons une œuvre, mais en réalité, bon, elle peut paraître bonne, mais en réalité, ce n'est que du foin. Comment savoir? En d'autres mots, qu'est-ce qui fait la quintessence, la qualité d'une œuvre, d'une action, pour que Dieu puisse dire oui, là c'est une œuvre d'or, alléluia, ça c'est une pierre précieuse qu'il me donne pour pouvoir couronner sa vie déjà maintenant. Eh bien, il y a deux éléments importants, essentiels, qui sont déterminants. C'est à partir de ces deux éléments que Dieu, eh bien, va déterminer si c'est une pierre précieuse. Lui seul sait le degré de qualité, mais en tout cas, la qualité est là. La première chose, derrière l'œuvre, derrière l'action, derrière la réaction, il y a d'abord et avant tout la motivation. La première chose, c'est la motivation. Les motifs derrière ce que nous faisons. Si les motifs sont impurs, quelle que soit la forme de l'action, aux yeux de Dieu, c'est une abomination. Donc pour Dieu, il n'y a pas que l'œuvre dans sa forme, l'œuvre avec son contenu, mais pour Dieu, il y a aussi et surtout la motivation derrière. Donc il y a la motivation, premièrement, le motif qui nous pousse à faire quelque chose. Voyez-vous, vous pouvez lever les mains, vous commencez à parler très fort. Les gens vous regardent, oh là là, il est branché, il est connecté sur le ciel, c'est incroyable. Hein? Et les gens vous envient, mais Dieu seul sait. Si vous avez aperçu une sœur et vous aimeriez lui prouver votre spiritualité. Dieu seul sait. Donc vous voyez la motivation, est-elle pure? Ah. Le panier passe. Vous voulez que tout le monde sache que vous donnez plus. Vous prenez là. Ok. Hey, viens, viens. Vous attendez que le panier passe. Serge, serge. C'est pourquoi j'ai horreur de cette pratique qui consiste à demander aux gens de passer devant. L'homme aime ça. C'est comme dans le sac à yonce à l'époque, le aime. Les gens aiment ça. Ouais. Les gens aiment ça. Quand on dit, bon voilà, et quelquefois, j'entends, j'ai déjà vu, on donne même les montants. Si un jour vous me voyez faire ça, levez-vous, arrêtez-moi. Parce que je ne vous rendrai pas un bon service. Je ne vous rendrai pas un bon service. Pourquoi tout le monde doit savoir que vous avez donné 50 dollars? Dans quel intérêt? Car la Bible dit que ce que ta main droite donne, c'est vous, c'est entre vous et Dieu. Il y a des gens qui font des gestes extraordinaires et je les remercie. Et beaucoup sont discrets, je rends grâce à Dieu. Ils ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils donnent. Voyez-vous? Et quelquefois, ils viennent me trouver au bureau et j'appelle Papa Palembi. Il est là, quelque part. Je l'avais perçu. Papa Palembi vient. C'est lui qui tient le carnet. Il dit, voilà. Vous lui faites le reçu et vous prenez ça. De manière discrète. Voyez-vous? La motivation, le moi aime ça. Être mis en évidence. Être placé sur le piédestal. Qui a 1 000 euros, 1 000 dollars? Dieu veut vous bénir. Alors, vous savez, il y a des spécialistes, des vrais manipulateurs. Hein? Ça s'agite derrière la chair. Alléluia. Non. Nous devons dénoncer ces choses. Dites seulement qui peut soutenir. Alors, les gens aiment ça. Que tout le monde sache que ce sont eux qui sont la... qui sont la vraie main qui soutient l'œuvre de Dieu. Voyez-vous? Il se lève là. 1 000 euros, 1 000 dollars. Et quelquefois, on le fait passer devant. Frère, viens. Ah, je peux venir? Ok. Mais on vous a déjà vu. Pourquoi poser la... C'est une fausse modestie. Voilà. Non, mes amis. Nous devons dénoncer ça. On ne rend pas un bon service aux gens. Parce que ce qu'il donne là ne compte pas aux yeux de Dieu. Dans la plupart des cas, c'est vrai qu'il y en a qui sont comme naïfs. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils ne se posent pas de questions. Moi, je voudrais que vous soyez des gens qui vous posez des questions. Qui réfléchissez, est-ce que c'est vrai? Pourquoi? Oui. Il ne faut pas être, il faut pas avoir la foi du charbonnier. Il faut se poser des questions. Il y en a qui sont peut-être, ils n'ont jamais vu ça. Ils disent, bon, Dieu voit aussi. Voyez, ils sont honnêtes, ils sont sincères. Ils se lèvent simplement parce que le pasteur, c'est un homme très autoritaire, etc. Comme un animateur politique ou culturel. Et ça, ça ne rend pas un bon service. Parce que vous donnez pour être vu. Et aux yeux de Dieu, ben vous avez déjà votre... Parce que tout le monde l'a vu. Parce que tout le monde a vu que vous avez donné autant. Eh bien, vous avez reçu votre récompense. Eh bien, la motivation est impure. Ça va plus loin. C'est ce que Paul a dit. Quand bien même quelqu'un donnerait tout ce bien pour la cause des pauvres, s'il n'a pas l'amour, cela ne sert. Amen. Vous voyez, pour Dieu, ce n'est pas seulement l'action qui compte. Paul dit, quand bien même quelqu'un donnerait tout ce bien, pour nous, on applaudirait, non? Oh tiens, il a donné sa maison à l'église. Formidable! Mais Dieu seul sait quelle est la motivation. Voilà. Voyez? Donc, pour Dieu, et je terminerai là, c'est la motivation et l'action qui déterminent la quintessence de l'œuvre. La qualité, mes amis, intrinsèque de l'action que nous avons posée. Et si nous avons posé de cette manière, avec des motivations pures, des motifs purs pour la gloire du Seigneur, mus par l'amour pour l'œuvre de Dieu, eh bien, ça c'est un matériau pour lequel Dieu seul connaît si c'est de l'or, si c'est de l'argent, si c'est une pierre précieuse. Et la Bible ne dit pas, parce qu'il y en a tellement, peu importe. Mais toujours est-il que c'est un matériau qui ne sera pas détruit. Mais au contraire, si nos motivations sont impures, si nous voulons à chaque fois attirer le regard de gens sur nous, eh bien, quoi que nous fassions, tout ça ne servira à rien. Ce sera comme des cymbales qui poussent, qui envoient un son creux. C'est tout. Alors, c'est de cette manière que Dieu, en tant que divin potier, avec les matériaux que nous mettrons à sa disposition, de l'or, des pierres précieuses, de l'argent, eh bien, il va quoi? Il va faire de nos vies des couronnes d'or, des couronnes d'argent, des couronnes en pierres précieuses. Et étant couronne entre ses mains, et demeurant couronne jusqu'à la fin, alors en ce jour-là, eh bien, nous recevrons la couronne de sa part. Et non seulement nous la recevrons, mais il nous fera monter sur son trône, comme lui a vaincu et s'est assis sur le trône de son Père. Alors, mes amis, il y a une grande récompense qui nous attend. Il y a le plus grand événement devant nous. Certes, il y aura le noces de l'agneau. C'est bien. Au noces de l'agneau, nous mangeons et après. Et après, il y a la récompense. Hein? Donc, le but, ce n'est pas seulement de faire partie des invités à ces épousailles, à ce noces extraordinaire entre d'un côté le Seigneur et son Église. Mais quand on parle de l'Église, dans cette Église, il y en a qui viendront avec des couronnes de bois, des couronnes de foin, de chaume. Il y en a qui viendront avec des couronnes de pierre, des pierres précieuses, des couronnes d'or. Eh bien, ceux-là, quand passera par le feu, les uns perdront tout. Ils se retrouveront sans rien, peut-être sans valise, enfin Dieu seul sait comment ça va se passer, mais en tout cas sans récompense. Au contraire, d'autres recevront la plus haute dignité qui soit, le couronnement. Et là, devant les archanges, devant les anges, devant les chérubins, mes amis, devant toute cette armée céleste, des créatures extraordinaires, glorieuses, on vous appelle, vous, on t'appelle toi, que le monde a méprisé, toi que le monde n'a pas voulu, puisqu'on avait voulu t'avorter, tu as échappé belle, toi qui es né dans des conditions difficiles, tu n'as pas connu l'amour, le monde a tout fait pour te détruire, il t'a entraîné dans des péchés, dans l'immoralité la plus abjecte, toi que le monde a tout fait pour te détruire, et puis un jour, dans sa grâce, il t'a pris, il t'a lavé, il t'a sanctifié, et puis ensuite, tu as commencé à bâtir avec lui, avec des pierres précieuses. Et voilà qu'en ce jour-là, n'ayant aucune généalogie sur terre, quand vous passez de l'autre côté, vous entendez votre nom. Vous savez, quand nous étions enfants, nous étions à l'école primaire. Hein? Je ne sais pas si ça se passe encore. Bon, c'était des écoles. J'étais dans une cité de la BCK à l'époque, de chemin de fer. Et nous allions à l'école Saint-Christophe. Et à chaque proclamation, eh bien, c'était tout un événement. On nous rassemblait. Il y avait le chef des cités, des Européens qui étaient là, etc. et on avait préparé des cadeaux. Voyez? Et c'était un grand événement, je me souviens encore. Hein? C'était en première primaire, deuxième primaire, troisième primaire, etc. Et quand on y allait, c'était avec une grande attente et en même temps, on était stressé. Mais quand on entendait son nom, on arrive à votre tour. La classe 2e A. Avec des petits shorts là. Pieds nus, hein, mais bon. Dès qu'on cite le nom, aïe, 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 aïe. Tu passes devant tous les camarades, devant les instituteurs, mes amis. Je me souviens encore, c'était un moment inoubliable. Voilà que j'en parle encore plus de 30, 40 ans après. Voilà, on en parle encore. Imaginez-vous en ce jour-là. On vous appelle. Vous savez combien il y aura de sauvés? Des myriades et des myriades, oui ou non? Vous serez peut-être dans le fond parmi ces myriades-là. Mais Dieu seul, il vous connaît. Et on incite votre nom. Et du fin fond, vous vous levez. Vous passez des anges de part et d'autre. Et ça sera dans les larmes, croyez-moi. Et le Seigneur vous regarde. Il te dit, ma fille, mon fils, tu as été fidèle jusqu'au bout. Tu ne m'as pas renié. Tu as tout enduré à cause de moi. Voilà maintenant la couronne. Monte sur mon trône. Et hop, devant ces anges. Heureusement, là-bas, il n'y a pas de crise cardiaque. Hein? Alléluia. Nous nous arrêtons là. Nous allons incliner nos têtes. Gloire à Dieu. Nous voulons te remercier pour cette grâce que nous avons de pouvoir déjà maintenant être de couronne entre tes mains. Mais seulement, Seigneur, nous devons savoir avec quel type de matériaux nous devons bâtir notre vie. Veillez, Seigneur, à nos motivations, aux motifs qui encadrent à la base des actes que nous posons. Aide-nous à ne pas rechercher, Seigneur, le regard des gens et l'approbation des hommes, à ne pas être vu, à ne pas nous mettre en évidence, mais au contraire, à rechercher ce qui est humble. Seigneur, ce qui passe inaperçu. Oh, merci pour tout. Aide chacun de nous à avancer et à demeurer, Seigneur, entre tes mains et à te donner l'occasion avec des matériaux, Seigneur, qui sont indestructibles, qui résistent au feu pour bâtir notre vie. Merci, Seigneur. Et en même temps, alors que nous sommes devant toi et que nous venons d'écouter cette parole, Seigneur, nous te prions de bénir et de poser ta main sur ces offrandes qui sont une expression de notre amour envers toi, une expression, Seigneur, de notre attachement à toi, mais aussi l'expression de notre désir de voir cette œuvre aller de l'avant et porter du fruit pour ta gloire. Bénis cela au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà.